Nos invités sont Raoul Peck, puisque votre film Raoul Peck, le jeune Karl Marx, sort en salle aujourd'hui. En face de vous se trouve Olivier Besancenot. Bonjour Olivier Besancenot, vous êtes membre de la direction du NPA, ancien candidat à la présidentielle, et vous venez de publier Que faire de 1917, une contre-histoire de la révolution russe. On écoute un extrait de votre film Raoul Peck, on va écouter la femme de Karl Marx, Jenny.
Vous êtes une femme extraordinaire, Frau Marx.
Jenny.
Jenny. Vous êtes admirable. Vous auriez pu mener une vie riche et oisive dans votre ville natale auprès d'un membre distingué de votre classe entouré de luxe et d'envie.
J'ai échappé à un ennui mortel, oui. Il n'y a pas de bonheur sans révolte. Sans révolte contre l'ordre existant, contre le vieux monde. Voilà ce que je crois. Et j'espère le voir bientôt craquer, ce vieux monde.
Il n'y a pas de bonheur sans révolte, Olivier Besancenot. Vous avez une heure pour commenter ce propos. J'imagine que c'est une phrase qui doit faire sens pour vous.
Ouais, et puis qui se commente pas tant, qui se pratique surtout. Je crois que c'est un vrai carburant de penser qu'en effet, la révolte pousse à apprendre d'abord beaucoup de choses, à comprendre, à chercher à répondre à ses détracteurs et surtout à agir, à peser. Alors dans une perspective politique, moi c'est la mienne, qui est toujours celle d'une grande rupture révolutionnaire, mais qui n'empêche pas d'agir ici et maintenant et aussi parfois de connaître des défaites, mais aussi de pouvoir se satisfaire encore heureux de quelques victoires au quotidien. Donc faire craquer ce vieux monde, oui, c'est un vrai
bel objectif. Et c'est surtout aussi, quand Jenny dit ça, c'est aussi pour faire comprendre que le petit bonheur individuel que nous nous souhaitons à tous, c'est pas ça le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est le bonheur de tous, le bonheur collectif. Quand il y a d'aussi grandes inégalités, voilà, on peut pas être heureux quand autour de vous, il y a la faim, il y a la guerre, il y a tout ça. Voilà, donc le bonheur, le vrai bonheur, c'est quelque chose de collectif.
Jenny Marx, dont vous rappelez l'importance pour l'œuvre de Marx, Raoul Peck, vous en rappelez l'importance, alors même que c'est une transclasse. Elle est née dans l'aristocratie prussienne et elle a décidé de tout abandonner pour suivre cet homme qui n'avait rien pour plaire à ses parents.
On est loin du terme péjoratif de gauche caviar. Là, on voit en effet trois jeunes de leur époque qui se mettent en rébellion avec leur propre classe.
Le troisième jeune, c'est Engels.
C'est Engels, qui est fils d'un grand industriel, qui a des usines aussi bien en Allemagne qu'en Angleterre, et qui décide de rompre les liens. Et ils vont garder cette décision toute leur vie, même quand ils étaient dans la misère.
Olivier Besancenot, vous avez vu le film de Raoul Peck. Qu'est-ce que vous en avez pensé par rapport à votre Marx, à vous? Quels sont les points communs, les différences?
J'en ai pensé que du bien. C'est un très beau film, d'abord, qui est tout à fait esthétique, et puis qui est une entrée en matière différente. Moi, je connais de Marx, finalement, les écrits, la grille de politique, un outil pour l'actualité et comprendre et agir aujourd'hui, avec une idée très forte qu'on retrouve dans le film. C'est l'idée qui a été discréditée à la fois par les historiographies de l'Ouest comme de l'Est. C'est l'idée que finalement, le marxisme était une pensée figée, alors que tout le contraire. Au contraire, cette pensée, c'est une pensée en mouvement. C'est-à-dire, il y a plein de Marx. Il y a un Marx qui évolue au fil de l'eau. Et puis surtout, grâce au film, il y avait une formule, c'était que Marx cherchait dans les faubourgs parisiens dans les années 1840, le prolétariat en chair et en os. Bah là, on découvre Marx et Engels en chair et en os. C'est-à-dire des personnages dont l'histoire, en fait, je la connaissais peu, même d'ailleurs dans leur biographie, quoi. Mm-hmm. Donc fait de doute, fait d'histoire personnelle, d'histoire amoureuse, de concours de circonstances, avec une vision pas du tout angélique des choses, en plus. C'est-à-dire, en plus, c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que ces noms que l'histoire retient, c'était pas très nombreux. Ça sied un peu de choses, le combat dans la Ligue des Justes. Enfin, je veux pas tout dévoiler, mais avec leur côté parfois un peu arrogant, les a priori aussi du côté des prolétaires par rapport à ces intellectuels qui viennent d'une autre classe et qui s'intéressent à leur sort. Il y a cette rencontre aussi qui s'effectue parce qu'il y a une période historique qui pousse à ça. Donc c'est vraiment vraiment enthousiasmant.
Hein. Vous dites arrogant parce que le film de Raoul Peck filme donc le jeune Marx. C'est un jeune Marx qui est dur avec un certain nombre d'icônes de la gauche d'alors, par exemple avec avec Proudhon. Vous le trouvez dur, Marx, par exemple, avec Proudhon, avec ces socialistes qui étaient des socialistes romantiques. Est-ce que c'est toujours un gros mot pour vous, socialiste romantique?
Romantique,
non. Utopiste.
Plutôt utopiste, ouais. C'était ça l'attaque finalement, tous ces penseurs qui imaginaient un peu la cité idéale, en pensant qu'on peut trouver un refuge. Et l'idée forte de Marx, c'est de rappeler que finalement, le communisme, le socialisme, à la limite, peu importe le nom qu'on lui donne, c'est d'abord le mouvement réel qui abolit l'ordre des choses. Ce qui est tout à fait intéressant dans le film, en prenant par le biais des jeunes années de Marx, mais on en avait déjà parlé à l'occasion de la projection de ton film I'm Not Your Negro, c'est vrai qu'on voit au niveau le conflit générationnel. C'est-à-dire que on voit les jeunes, c'est Marx, c'est Engels, qui font face à des figures établies, beaucoup plus vieilles qu'elles, qui sont Proudhon, les figures de l'anarchisme. C'est un peu à contre-temps de ce qu'on pourrait croire aujourd'hui, quoi.
Oui, et surtout, on a oublié que Marx était un jeune génie. Quand ses professeurs parlent de lui, alors qu'il a 19 ans, il vient de finir sa thèse de doctorat, quand ses professeurs veulent le présenter, ils disent, si vous voulez rencontrer dans la même personne Voltaire, Rousseau, Diderot, Hegel, rencontrez ce jeune Karl Marx. Donc c'est quand même quelqu'un qui arrive avec une force de pensée extraordinaire.
Le film de Raoul Peck est un film très pédagogique, Olivier Besancenot. Pour rentrer dans Marx, ça n'est pas forcément aisé. Vous, comment avez-vous fait et comment peut-on essayer de lire cet homme? Par quoi faut-il commencer? Comment faut-il s'y prendre?
Faut le prendre par affinité, c'est-à-dire ce qui vous parle le plus en fonction de ce que vous avez envie de comprendre à tel ou tel moment, parce qu'il y a en effet une telle œuvre chez Marx, des écrits philosophiques, souvent enterrés, là aussi, d'ailleurs, les jeunes années de Marx, c'est les années tout à fait intéressantes du point de vue de la pensée philosophique et de l'épanouissement individuel.
Pourquoi?
Pour rappeler que le communisme et le marxisme, c'est tout sauf l'égalité de caserne. C'est tout sauf le communisme de caserne. C'est au contraire la volonté de l'épanouissement individuel dans tous les domaines de la vie. Domaine culturel, social, affectif.
Et une voix critique aussi, de la société, surtout.
Et d'une voix critique. Évidemment, les questions économiques avec le capital. Mais c'est surtout, moi, cette longue pensée, c'est ça qui est tout à fait intéressant. C'est-à-dire, là, on voit à travers ce film la bascule qui s'opère chez lui, c'est-à-dire comment des idées libérales très ouvertes, il en arrive à appréhender la question sociale et la question de la propriété, notamment avec cette première scène du film qui est extraordinaire sur la question du vol du bois. C'est-à-dire en Rhénanie, des lois qui ont été prises par les autorités et qui empêchaient les paysans les plus pauvres de récolter le bois et qui ont été
Du bois même tombé par terre, c'est-à-dire du bois mort.
Olivier Besancenot, j'ai posé la question tout à l'heure à Raoul Peck. Comment expliquez-vous que cet homme qui était un homme ouvert, même si évidemment lorsqu'il était dans le dialogue, il ne se laissait pas faire vis-à-vis de ses contradicteurs, comment expliquez-vous le passage de Marx, de son œuvre, au marxisme, au stalinisme, à ses formes dévoyées?
Je crois que moi, c'est aussi ce que je comprends en filigrane dans le film. C'est quand même réhabiliter l'idée que on peut pas laisser faire et laisser entendre tous les procès en hérédité qui sont faits aujourd'hui au nom du bilan du socialisme réellement existant et qui voudraient inscrire dans les gènes du communisme et dans les gènes du marxisme le bilan tragique de la contre-révolution stalinienne, avec quelques figures que j'ai même pas envie de nommer d'ailleurs, mais qui par exemple ont osé écrire il y a quelques années, je m'en souviens encore, que la formule de Marx, l'histoire de toute société humaine est d'abord et avant tout une histoire de lutte de classe, est un crime. C'est-à-dire trouver, c'est le procès de l'idée qui tue. Là, en l'occurrence, il y a un projet, quand on s'y intéresse et quand on le lit de près, qui correspond absolument pas à la réalité, ne serait-ce que justement parce que c'était une pensée en mouvement. Si vous lisez par exemple la guerre civile en France, qui est donc le bilan que fait Marx de la Commune avec des intonations tout à fait libertaires, où il en arrive à la conclusion qu'on peut plus simplement se satisfaire de prendre l'appareil bureaucratique et militaire tel qu'il est pour le changer de main, mais qu'il faut le détruire et en faire un autre, en disant d'ailleurs qu'il faut même probablement réécrire et revoir le manifeste, c'est à l'opposé justement des conceptions figées et
glacées. Oui, et puis Marx était Marx et Engels étaient des personnages critiques tout le temps. Ils remettaient en question leur propre pensée. C'était pas censé être quelque chose de figé, ni même la prise de pouvoir n'était pas censée être quelque chose de figé.
Moi, c'est comme ça d'ailleurs que sa femme le bâche dans votre film, puisqu'elle lui propose donc d'intituler son livre Critique de la critique critique.
Absolument.
Puisque c'était des gens très critiques.
Voilà, il fallait fallait faire table rase de tout ce qui avait figé la pensée humaine et de ces grandes sociétés européennes pour créer autre chose, à partir d'ailleurs de Hegel, Feuerbach et ensuite la pensée marxiste. Alors, je voulais juste dire une phrase importante que pour moi, que je m'en sers aujourd'hui, quand Marx dit, en effet, voilà, l'émancipation de tous passe par l'émancipation de chacun. Donc, ça veut dire, a priori, il faut jamais laisser l'humain de côté. Ça fait partie du combat. Or, justement, ce soi-disant socialisme réel, très souvent, a voulu éliminer toute dimension humaine, toute dimension même privée, toute dimension de vrai bonheur, etc. Et Marx réhabilite ça dès le départ. Et tout ce qui est resté en route, malheureusement, dans un contexte de guerre, dans un contexte de guerre froide également. Donc, ce qui s'est développé comme soi-disant socialiste dans tous ces pays n'a rien à voir avec l'objet de départ qui est d'analyser la société capitaliste telle qu'elle est et telle qu'elle se transforme.
Et oui, parce qu'il y a cette phase d'analyse, le jeune Marx, c'est le jeune qui se frotte à l'économie, donc à l'économie de Ricardo, d'Adam Smith, et donc on voit cet homme, Olivier Besancenot, qui est d'abord un savant, il pratique les sciences humaines.
Oui, c'est un savant, mais qui est quand même assez partageux, même sur le goût du savoir. Je crois qu'il n'y a pas, là aussi, il y a une confrontation au réel et à la pratique. Et c'est son obsession, c'est de revenir au réel. Et d'ailleurs, dans ses polémiques avec Proudhon, c'est d'en revenir au réel, d'en revenir au ressenti, à la réalité, pas simplement aux abstractions. Donc il y a ce mélange-là, c'est-à-dire, hein, c'est pas, y compris s'il y a une rupture à établir avec ce qui a pu être une certaine forme de stalinisation du mouvement ouvrier, hein, au-delà même de ce qui se passait en Union soviétique, c'était l'idée qu'il fallait enseigner aux ignorants qu'étaient les masses prolétariennes. Je crois que c'était pas tout l'aspect du personnage, son côté un peu arrogant et parfois sûr de lui, mais en même temps très partageux. Et là aussi, c'est un personnage complexe et c'est ça qui est intéressant.
Et il était impatient dans tout ce qui prenait forme de, par exemple, de gourou. Quand il attaque Weitling, c'est contre cette espèce de culte de la personnalité, d'un populisme de bas de gamme. Parce que, à l'époque, Weitling, qu'est-ce qu'il dit? Bon, à la limite, on n'a même pas besoin de dire aux travailleurs pourquoi ils se révoltent. Et Marx dit non, l'ignorance n'a jamais aidé personne. Donc, il faut instruire. Et il a été journaliste pour ça. Quand Engels va faire les barricades, Marx crée un nouveau journal quand il retourne en Allemagne.
Mais ça, quand même, le parti communiste, le PCF, l'a fait, y compris dans les moments où il était le plus stalinien de son histoire, Olivier Besancenot, il a quand même entrepris tout un travail de pédagogie. Lire Marx, ça voulait dire le lire dans les éditions sociales. Ça veut dire qu'il y avait quand même tout un travail d'ouverture également à une tradition philosophique. Il y avait quand même un boulot pédagogique de fait.
Ah bah dans l'histoire, dans la longue histoire du Parti communiste, il y a évidemment un aspect de contre-culture qui va même au-delà d'ailleurs des organisations sociales, des organisations culturelles, des organisations du mouvement ouvrier, qui ont en effet eu cet aspect-là des choses. Moi, je l'entends par l'aspect idéologique, c'est-à-dire relier Marx à Staline, pour moi, c'est établir une équation falsifiée, tronquée, qui correspond ni à la pensée de Marx, ni aux faits historiques, ni d'ailleurs même une partie du ressenti de ce qui s'est passé en Union soviétique, je crois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement retenir l'idée que du côté des masses populaires, on rejetterait tout ce qui s'approche de près ou de loin à 1917, à Lénine ou à Marx, quand en général c'est un petit peu plus complexe que ça. Voilà, il n'y a pas simplement les images de ces foules qui ont en effet parfois piétiné et déboulonné les statues de Lénine. Il y a aussi quelques histoires, celle de Marx par exemple, c'est une histoire qui était en vogue dans l'Union soviétique des dernières années. C'est Marx qui revient sur Terre. Voilà, et qui veut s'inviter à l'occasion du dernier congrès du Parti communiste de l'Union soviétique à la télévision. Donc il arrive, il voit les deux gardes à l'entrée, il dit, il va les voir, les deux gardes ne le reconnaissent pas, ne le connaissent même pas, il est obligé de décrocher les affiches du mur en disant, voyez, le barbu à côté de Lénine, c'est moi. Donc il arrive à mettre le doute dans l'esprit des gardes qui vont convoquer le Politburo. Le Politburo est en panique en disant, est-ce qu'on lui laisse ou pas la parole à la télé? Si on lui laisse parler trop longtemps, ça risque d'être compromettant pour nous. En même temps, pas laisser parler avec toutes les effigies, c'est compliqué. Donc ils se mettent d'accord sur le fait, on va laisser parler une minute. Donc ils vont voir Marx, dit, pas de problème, de toute façon, j'aurai pas besoin de plus longtemps. Marx arrive à la télé avec un air sérieux, solennel, et il dit, prolétaire de tous les pays, pardonnez-moi. Comme quoi, même dans les couches populaires en Union soviétique, il y avait quand même l'idée qu'on pouvait pas attribuer au marxisme ce système qui se revendiquait du communisme.
Et puis, il y a un autre aspect qui est important, qui est plus internationaliste, c'est que on oublie, moi, quand j'étais jeune, il y avait la dictature dans mon pays, Haïti, une dictature qui était soutenue par l'ensemble des pays européens, et par l'Amérique. Et c'était pareil pour l'ensemble des dictatures en Amérique latine. Et il y avait une tentative des pays du tiers-monde de se réunir dans cette tricontinentale pour montrer une troisième voie qui ne soit pas un choix entre l'Union soviétique d'alors et le capitalisme d'alors. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a décapité tous les leaders de ce mouvement, y compris voilà, des gens comme Ben Barka, pour prendre un exemple très proche, puisqu'il a été assassiné en France, Lumumba, en début des années 60, dans les indépendances haïtiennes, comme africaines. Comment Sékou Touré qui dit non à De Gaulle, et on le punit pour ça. Je me rappelle un film documentaire sur la France-Afrique, où un ancien ambassadeur de France dit comment ils ont saboté l'économie de ce pays en amenant des caisses et des malles de faux billets. Donc c'est ça, c'est un combat réel, et pour nous du tiers-monde, c'était important d'avoir cette alternative.
Enfin, on peut aussi considérer que le plus grand tueur de communistes sur Terre, ce fut Staline. La manière dont Staline s'en est pris avec les membres du PC, avec un certain nombre de personnes avec qui il avait établi les premiers moments de son gouvernement et de sa domination sur l'Union soviétique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme actualité de Marx, Olivier Besancenot, quand vous voyez ce jeune Marx qui parle donc à des ouvriers avec des conditions de travail qui sont dépeintes dans votre film, Raoul Peck? En quoi cela fait écho à la situation que nous vivons, selon vous?
L'actualité de la nécessité de pas simplement comprendre le monde, mais de le transformer. D'abord, de le comprendre, toujours et avant tout, puisque même dans les cercles, les économistes les plus libéraux, au moment de la grande crise financière de 2007-2008, je me souviens que eux-mêmes se sont repenchés sur Marx pour comprendre ce qui était en train de l'arrivée à leur propre système en termes de crise de surproduction et de suraccumulation, parce que du point de vue de l'analyse du processus de l'extraction de la plus-value et de sa reproduction, je pense qu'on n'a pas fait mieux depuis, et c'est toujours d'une brillante actualité, avec un système économique qui a changé, hein, bien entendu. Et puis moi, quand j'en tire comme actualité, c'est l'actualité de l'idée d'émancipation, c'est-à-dire de l'émancipation par les travailleurs eux-mêmes, c'est-à-dire par les masses elles-mêmes, et donc comprendre y compris les dernières années de Marx sur la compréhension du phénomène bureaucratique, hein, qu'on retrouve, moi je me suis repenché sur ce phénomène-là à travers la révolution de 1917, mais ça aussi c'est d'une brûlante actualité, comment le processus bureaucratique vient très vite. Quand Marx écrit sur la Commune, je vous disais, il avait des intonations libertaires, il a des formules très très fortes en parlant de l'appareil d'État comme un boa constrictor qui étouffe la vie démocratique, c'est-à-dire un corps séparé du restant de la société, fait de grands bureaucrates, fait de grands militaires, et en expliquant que la Commune, en deux mois, a trouvé les moyens de créer autre chose, de détruire cette forme-là et de faire ce qu'il appelait une forme de démocratie enfin trouvée, en disant qu'une nouvelle fois, et là c'est l'actualité même peut-être de la gauche radicale, qu'il ne suffit pas de prendre les clés de la maison et changer de propriétaire pour changer tout ça, voilà, qu'il faut revoir toutes les règles.
Pourquoi l'actualité de la gauche radicale?
Parce qu'aujourd'hui, la question qui se pose à la gauche de la gauche, c'est de savoir si, est-ce que oui ou non, on change le personnel politique en mettant les bons à la place des mauvais, pour changer les règles, ou est-ce qu'on se met d'accord sur le fait qu'il ne faut pas simplement changer les pions, mais toutes les règles du jeu. Et Marx dit ça, il dit, il y a un échange avec Kugelmann, je crois, en 72, où il explique on était parti dans l'idée qu'il fallait changer simplement la propriété de cet appareil bureaucratique et militaire, mettre les clés dans d'autres mains, c'est-à-dire les nôtres, pour changer les choses. Non, il faut le détruire. Donc, quand on croit ce qu'on raconte du côté, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon, je sais pas, du côté de Benoît Hamon, du côté de Lutte Ouvrière, du côté de toutes les organisations de la gauche anticapitaliste qui se revendiquent de ça, que la Ve République est un système antidémocratique, alors faut d'abord inventer de nouvelles règles avant de penser qu'on a besoin de nouveaux chefs ou de nouveaux leaders. Je sais pas, je dis ça, je dis
rien. Non, je crois que vous avez été assez clair là-dessus. L'émancipation, l'aliénation sont deux termes extrêmement importants dans l'œuvre de Marx. Vous avez dit tout à l'heure, Raoul Peck, James Baldwin ont pu publie d'ailleurs en ce moment en français « I'm not your Negro », le livre de
la version française
est concocté à partir des propos de James Baldwin chez Robert Laffont. Vous avez dit tout à l'heure que Baldwin et Marx avaient été finalement deux détonateurs pour vous. Baldwin et Marx, quels sont les points communs?
Parce que, alors c'est ressorti quand j'ai commencé à travailler sur ces deux projets, c'est pratiquement à la même époque, il y a un peu plus de 10 ans. C'était quoi? C'était comment remettre sur la table une vraie pensée, une vraie analyse, et qui a à voir avec nos vies. Et moi, et Baldwin et Marx, que j'ai rencontré très tôt dans ma vie de jeune homme, m'ont structuré. Ils m'ont permis de comprendre à tout moment, même dans son évolution, la société ou les sociétés dans lesquelles je vivais, que ce soit en Europe, en Amérique ou dans le tiers-monde. Et la force de ces pensées, pour moi, était essentielle. Et j'ai voulu justement redonner à une jeune génération cette capacité de se trouver, de comprendre et de se structurer dans sa manière de penser. Et je pense que ça nous manque terriblement aujourd'hui.
Olivier Besancenot, votre réaction par rapport à cela sur l'antiracisme?
Comme souvent, il n'y a pas grand-chose à rajouter à ce que dit Raoul sur la question. Je pense qu'on a tous rencontré à un moment ou à un autre des auteurs, des écrivains, des figures qui vous proposent de partager une pensée comme un outil pour aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire pas moi, ça m'intéresse pas d'aller puiser dans l'histoire des dogmes. Ça a jamais été ma façon de voir les choses. Mais il y a en effet des grandes rencontres et le film sur Baldwin, je l'avais dit à l'époque, m'a donné envie de lire Baldwin parce que je connaissais le personnage, mais je l'ai pas lu. C'est un terrible aveu, mais qui est un personnage pour comprendre ne serait-ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, mais ce qui se passe pas simplement qu'aux États-Unis aujourd'hui, ce qui se passe ici aussi en France. Donc c'est moi, il y a des figures comme Nietzsche aussi.
Et Baldwin est vraiment un grand humaniste. C'est ça qui est formidable. Il critique, il est très dur dans ses critiques, mais en même temps, il ne vous antagonise pas et il vous font comprendre que c'est important de regarder l'autre quel qu'il soit. C'est même pas une histoire de noir ou d'arabe, c'est vraiment tout autre. Ça inclut les femmes, ça inclut les homosexuels, ça inclut dans une société, pourquoi une majorité de ces sociétés manque d'empathie pour tout le reste de cette société. Oui, et c'est ça qui est important.
Il y a quand même ça. Alors, il n'y a pas de texte à proprement parler antiraciste de Marx. Le concept était complètement anachronique. Mais par contre, il y a une chose chez Marx. Si on met de côté la question juive, je crois que sur ce livre, on ne sera pas d'accord, Raoul Peck.
C'est un long débat. Oui.
Il y a en tout cas quelque chose d'important chez Marx, c'est qu'il y a une lutte contre l'idée que les hommes se réduisent à leur essence. Et cela, on sait que l'essentialisme est malgré tout à la base même du racisme. L'œuvre de Marx peut être lue contre une tentative de déchirer ce voile qui réassigne les individus à une identité, à une essence.
Oui, c'est un raccourci qui est terrible, parce que c'est comme si on définissait, même si là, en effet, Marx écrit aussi que la société, dans la classe dans laquelle vous êtes né, détermine déjà en grande partie votre futur. Mais il dit en même temps qu'on peut changer ce futur. On n'est pas figé, tout n'est pas figé. Pourquoi il dit qu'il faut éduquer les jeunes, éduquer la classe ouvrière pour qu'elle puisse s'approprier ces éléments pour sa propre libération? Et il ne veut pas que ce soit un gourou qui vienne leur amener ça, cette vérité. Donc c'est tout ça, c'est dialectique, ça va ensemble. On est même en France. Déjà en France, au jardin d'enfants, vous subissez déjà une première sélection dépendant du niveau de vie de vos parents. C'est une réalité. Ceux qui vont vous orienter plus tard dans votre parcours, ils décident de votre futur. Moi, les jeunes qui ont étudié avec moi quand j'étais à l'école à Orléans, eh ben, ils ont reproduit exactement les classes desquelles elles provenaient.
Olivier Besancenot.
Non, mais je pense qu'il faut en effet... Faut déterrer Marx des décombres où on l'a mis, et notamment de celle du stalinisme, où on nous a souvent, comment dire, résumé la pensée de Marx à des questions économiques, économicistes, scientifiques, c'est-à-dire avec même l'idée que le capitalisme allait s'écrouler de lui-même, sans intervention humaine, en retirant l'aspect de pensée humaniste de Marx, et toutes les pensées politiques, même parfois, même si elles ne sont pas énormément développées, ce que vous disiez par exemple par rapport à la question du racisme, mais même sur des questions écologiques qu'il n'aborde pas énormément, mais qu'il aborde malgré tout, dans le rapport justement de séparation et de propriété ou pas avec la terre.
Donc, le rapport de l'aliénation, le rôle qu'il prête à la bourgeoisie, puisque si on lit une œuvre de jeunesse, le manifeste du Parti communiste, qui est peut-être la meilleure manière de se populariser avec l'œuvre de Marx quand on n'en a pas lu, il y a aussi un hommage au rôle de la bourgeoisie dans l'histoire.
Dans le rôle historique, parce que là aussi, on ne peut pas comprendre Marx si on ne comprend pas les circonstances et les périodes dans lesquelles il évolue. À ce moment-là, oui, il part de l'idée que c'est la possibilité d'extraire des sociétés du féodalisme, du servage, et que, mais que le système ne va pas s'écrouler de lui-même, que c'est qu'une période et une transition vers autre chose.
Et d'ailleurs, il prévoit que le changement va venir de la France, de l'Angleterre ou de l'Allemagne, surtout pas de la Russie. Et ça, on l'oublie encore. Donc la Russie essaie de tenter une aventure socialiste alors qu'elle n'est pas prête pour ça.
Même Marx n'était pas prophète.